Bonjour, ici Walid Romani et bienvenue à Document 1. J'imagine votre première question est « Qu'est-ce que c'est Document 1 ?» Bien pour moi, c'est une page blanche, le premier document sur l'ordinateur où on met ses notes, ses pensées. On rassemble ses idées. C'est une courte pointe pour les réflexions et les textes de chercheurs, d'intervenants communautaires, de militants et de journalistes sur les enjeux de justice sociale. Comme par exemple, pourquoi les riches se foutent des pauvres? Comment parler du privilège blanc? Les changements climatiques sont-ils une fable? Ou encore, les jeunes savent-ils encore parler français? Mon nom est Walid Romani, je suis enseignant et littéraire. Chaque semaine, je vous invite en ma compagnie à écouter une sorte de mosaïque de textes de spécialistes commentés avec beaucoup d'humilité par moi. Alors aujourd'hui, notre premier texte est « McDonald's workers in Denmark want good pay and benefits through striking » de Matthew Brennick. Alors Matthew Brennick est un avocat américain, un blogueur, un analyste de politique, un analyste politique. Il a fondé le think tank gauchiste People's Policy Project et il a écrit de nombreux textes sur les enjeux touchant à la justice sociale, comme la discrimination, la redistribution de la richesse et la démocratie. Alors, vous l'avez sans doute déjà vu ce titre rapidement sur les médias sociaux ou dans des quotidiens ou des revues comme Slate, le 24 heures, le Huffington Post. Les travailleurs de McDonald's au Danemark gagnent 22$ de l'heure. En plus de ça, 6 semaines de vacances et des indemnités maladie. Et tout cela vient s'ajouter à la liste générale des prestations sociales du Danemark qui sont très semblables à celles du Québec, comme l'allocation familiale, les soins de santé, la garde des enfants, les congés payés, la retraite et l'éducation, dans leur cas l'éducation universitaire. Donc, ces articles et ces posts sur les médias sociaux ont suscité plusieurs discussions publiques. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles ont tendance à escamoter la façon dont tout cela est arrivé. Et c'est dommage, parce que c'est une histoire vraiment intéressante et parce que cette histoire permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les conditions de travail des pays nordiques sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, Matthew Brennick nous explique l'origine de cette histoire. McDonald's a ouvert son premier restaurant au Danemark en 81. À ce moment-là, il opérait dans plus de 20 pays et avait réussi à éviter les syndicats partout. Tous les territoires étaient sans syndicats, sauf la Gaule. sauf la Suède. Lorsque McDonald's est arrivé au Danemark, le marché du travail était régi par un ensemble d'accords de travail sectoriels qui établissaient les salaires et les conditions de travail pour tous les travailleurs d'un secteur donné. Selon les normes en vigueur, McDonald's aurait dû adhérer à l'accord du syndicat de l'hôtellerie et de la restauration. Mais il n'était pas obligé de le faire, légalement parlant. L'accord syndical n'engage pas les employeurs du secteur au même titre qu'un contrat. Vous ne pouvez pas poursuivre une entreprise pour l'avoir ignorée. C'est strictement volontaire. Et là, il faut me voir faire les petits chevrons, les guillemets volontaires. Alors, McDonald's a décidé de ne pas suivre l'accord syndical et a donc mis en place ses propres échelles de traitement et ses propres règles de travail. Il y avait bien sûr un écart, non seulement par rapport à ce que faisaient les entreprises danoises, mais aussi par rapport à ce que faisaient d'autres entreprises étrangères, comme par exemple Burger King, qui était identique à McDonald's. Bon, j'en entends qui vont crier au meurtre ici, là, mais oui, McDo, Burger King, même combat. Donc, même Burger King a décidé de suivre l'accord syndical quand il est arrivé au Danemark quelques années plus tôt. Naturellement, cette décision de McDonald's a attiré l'attention du mouvement ouvrier danois. Selon les articles de l'époque, la lutte pour que McDonald's respecte l'accord des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration a commencé en 82, mais le début a été très modeste, très lent. McDonald's a soutenu qu'il avait une position de principe contre les syndicats et les négociations. Une position de principe contre les négociations. Pour ce que ça veut dire. À la fin de 88, début 89, les syndicats ont décidé que c'en était assez et ont déclenché des grèves de solidarité dans les industries adjacentes afin de paralyser les opérations de l'entreprise. 16 syndicats de secteurs différents ont participé aux grèves de solidarité. Par exemple, les dockers ont refusé de décharger les conteneurs contenant les marchandises de McDonald's. Les imprimeurs ont refusé de fournir des imprimés aux restos, comme les menus et les tasses. Les ouvriers du bâtiment ont refusé de construire des restaurants McDonald's et même arrêté la construction d'un restaurant qui était en cours mais qui n'était pas encore terminé. Le syndicat des typographes, quant à lui, a refusé de placer les publicités de McDonald's dans les publications, ce qui a éliminé la présence publicitaire de l'entreprise. Les camionneurs ont refusé de livrer de la nourriture et de la bière à McDonald's. Oui, il y a de la bière au McDo là-bas. Les travailleurs de l'alimentation et des boissons qui travaillaient dans les installations qui préparaient de la nourriture pour les restaurants ont refusé de travailler sur les produits McDonald's. En plus de faire des ravages dans les chaînes d'approvisionnement de l'entreprise, les syndicats se sont livrés à des piquets de grève et à des campagnes de tracts devant les restaurants, exhortant les consommateurs à boycotter l'entreprise. Une fois les grèves de solidarité lancées, McDonald's n'a eu d'autre choix que de se replier. Et a décidé de commencer à suivre l'accord sur l'hôtellerie et la restauration en 89. Et c'est pourquoi les travailleurs de McDonald's au Danemark sont payés 22 $ de l'heure, ce qui est, je crois, ici presque 29 $ de l'heure. J'en parle parce que les gens disent beaucoup de choses sur les économies des pays nordiques et pourquoi elles sont tellement plus égales que la nôtre, ou équitables, si on veut. Quand on parle des pays nordiques, la présence des syndicats et des négociations sectorielles est certainement évoquée, mais il est rare que l'on discute de la puissance et de l'organisation radicale des syndicats. Si vous ne saviez pas mieux, vous penseriez que le marché du travail nordique est ce qu'il est parce que tous les employeurs et travailleurs se sont réunis et ont convenu que leur système est meilleur pour tout le monde. Ici, il est bien sûr vrai qu'au quotidien, les relations de travail dans les pays nordiques sont pacifiques. Derrière cette paix, se cache souvent une menace crédible que les syndicats écrasent un employeur qui sort du rang. Pas seulement en faisant la grève devant le milieu de travail, en milieu de travail, mais en s'attaquant à tout ce qui touche l'entreprise. En 2019, en Finlande, lorsque le service postal public a décidé de réduire le salaire de 700 gestionnaires de colis en les déplaçant vers un accord sectoriel différent de celui en vertu duquel ils étaient payés, les syndicats ont répondu en faisant la grève dans les compagnies aériennes, les ferries, les autobus, les trains et les ports. Au lendemain de ces grèves, les réductions de salaire ont été annulées et le premier ministre du pays a démissionné. Quand on évoque ces faits, les gens répondent parfois en disant que ce genre de grève est illégal ici. C'est vrai, mais dire que l'environnement juridique différent est ce qui explique le radicalisme ouvrier, c'est prendre les choses à l'envers. Ce ne sont pas les lois qui font le radicalisme ouvrier, mais plutôt le radicalisme ouvrier qui fait les lois. Faut pas oublier qu'à ses débuts, le syndicalisme n'était pas inscrit dans la loi. Il a fallu le courage de plusieurs femmes, plusieurs hommes, rassemblés pour lutter contre les structures oppressives et nous permettre aujourd'hui d'avoir ce que nous avons. Si nous voulons un jour atteindre les niveaux d'égalité qu'ont les pays nordiques, il est vraiment difficile d'imaginer le faire sans construire un mouvement ouvrier tout aussi puissant. On peut certainement y arriver, par exemple en adoptant la gratuité scolaire universitaire, mais sans les syndicats, il nous manquera toujours un élément clé. Et si les réformes juridiques et politiques peuvent aider à renforcer le mouvement ouvrier, le pouvoir du travail organisé n'est pas en fin de compte ancré dans l'État, mais plutôt dans la capacité d'arrêter la production et de semer le chaos même lorsque l'État est aligné contre nous. McDonald's ne verse pas de salaire élevé aux Danois en raison d'un plancher salarial légal ou même parce que l'État est intervenu pour faire appliquer une convention collective. Il paie des salaires élevés parce que dans les années 80, les syndicats danois ont appuyé sur une switch et fermé toute l'entreprise. Et au Québec, c'est aussi dans cette direction qu'il faut foncer. Merci à tous, c'était Walid Romani pour Document 1. À la prochaine!